Le huitième commandement, c'est celui qu'on va voir ce soir. Donc, tu ne déroberas point. Voilà, donc nous allons regarder ce commandement, étudier ensemble un petit peu le commandement, donc tu ne déroberas point ou tu ne voleras point. Donc, comme les deux commandements précédents et comme le suivant, ce commandement est très bref, puisqu'il ne contient que quatre mots. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. En fait, les 10 commandements fonctionnent un petit peu comme des têtes de chapitre. Et on a vu d'ailleurs que dans le sermon sur la montagne, que Jésus a développé, en fait, au moins il a développé deux commandements dont on a parlé, le commandement sur le meurtre, en montrant que sa racine, c'était donc la haine, et le commandement sur l'adultère aussi, en montrant qu'on peut commettre l'adultère dans son cœur. Et donc, en fait, on a commis l'adultère. Parce que la racine de l'adultère, c'est donc la convoitise dans son cœur. Et ce qu'on veut faire ce soir, c'est un petit peu la même chose, c'est développer sur la base de la parole ce thème en fait de l'interdiction du vol. Donc regarder un petit peu plus en profondeur ce que la parole nous dit sur ce sujet. On va regarder plusieurs aspects. Tout d'abord, on va regarder le principe qui est transgressé par le vol, donc qui est le principe de propriété. Ensuite, on va regarder les différentes formes de vol. On va voir que le vol prend des formes effectivement multiples. On va regarder aussi les causes du vol, ce qui pousse les gens à voler, ce qui nous pousse à voler. On va regarder ses conséquences selon la parole de Dieu. On va regarder comment la parole nous aide à éviter le vol. Puis on va regarder aussi le pardon offert par le Seigneur aux voleurs. Donc tout d'abord, regardons le principe de propriété. Lorsque j'étais au lycée, on nous a fait donc étudier l'histoire de la pensée et de la philosophie, notamment en France, et il y a un personnage qui m'a toujours frappé, qui s'appelait donc, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un philosophe et un politicien français du 19e siècle, qui s'appelait Pierre-Joseph Proudhon. Et en fait, il est célèbre parce qu'il a eu une phrase, je pense que c'est surtout ce qui est resté de lui, qui était la suivante: la propriété, c'est le vol. Donc cet homme, il est considéré, paraît-il, comme le père de l'anarchisme. Donc sa grande phrase, c'était la propriété, c'est le vol. Et en fait, on ne peut pas trouver de déclaration plus contraire, qui soit plus opposée à l'enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la parole de Dieu défend le principe de propriété. En particulier dans ce commandement, elle défend le principe de propriété. Et en fait, le vol, il consiste à transgresser le principe de propriété. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de vol non plus. Mais la parole de Dieu défend ce principe. Par exemple, en Deutéronome 19,14, vous pouvez peut-être trouver dans vos Bibles, Deutéronome 19,14, on a donc un passage qui parle en fait des bornes. Et donc il dit que, effectivement, bah, les terres qui étaient attribuées aux Israélites, hein, dans l'Ancien Testament, elles étaient délimitées par des bornes, un petit peu, on pourrait dire peut-être des clôtures. Et donc ce verset dit: Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posé par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Donc Dieu, dans sa loi, il s'attache à défendre la propriété des personnes, donc des terres qui leur ont été données, et même il manifeste sa colère envers ceux qui déplacent les bornes, donc qui voudraient s'attribuer, accaparer la propriété d'autrui. Par exemple, il dit en Osée 5, verset 10, Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent des bornes, qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Et j'insiste sur ce principe de propriété qui est à la base du commandement sur le vol, parce que dans notre culture française en particulier, qui est très influencée par la pensée d'hommes comme Proudhon ou d'autres du même genre, il y a beaucoup de confusion chez nous en la matière, et on est vite prêt à considérer que la propriété des autres, ben, elle s'arrête là où commencent mes besoins. Hein? Et donc, le concept de propriété est peut-être un petit peu flou. Alors, je voudrais aussi citer quelque chose qu'a dit Jean Calvin sur le principe de propriété qui éclaire très bien ce sujet. Il dit que ce que chacun possède ne lui est pas arrivé par hasard, mais par la distribution effectuée par le maître souverain. On ne peut pas s'emparer des biens de quelqu'un sans que l'ordre de Dieu ne soit violé. Ça veut dire que si quelqu'un possède quelque chose, c'est que Dieu a voulu que ce soit comme ça, et que donc, si on s'attribue le bien de quelqu'un d'autre, on va contre ce que Dieu a décidé, l'ordre que Dieu a décidé. J'aurais également cité un anglais, un chrétien anglais du XVIIe siècle qui s'appelait Thomas Watson et qui a dit ceci: Dieu a dressé le huitième commandement comme un rempart autour du bien des personnes, comme un rempart donc autour des propriétés des personnes. Et donc en tant que chrétien, ce qu'on veut, c'est non seulement nous obtenir, mais ce qu'on veut aussi, c'est nous attacher à préserver la propriété de chacun, la nôtre, mais aussi celle de notre prochain. On veut s'attacher à préserver en fait cette propriété qui est chère à Dieu. Maintenant, on va regarder un petit peu les différents types de vols. Alors c'est vrai que quand on pense au vol, on pense tout de suite, sans doute nous vient à l'esprit le vol dans un magasin, un cambriolage d'une maison ou d'une banque, un vol de voiture. Donc ce sont des choses qui sont évidemment visées en premier chef par ce commandement. Mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont coupables de ce genre de forfait, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous soyons exempts du vol, parce que des formes de vol qui sont beaucoup plus subtiles que ça, et que nous pratiquons sans doute, peut-être même sans nous en rendre compte. Par exemple, d'abord, en 1 Thessaloniciens 4, verset 6, nous lisons: Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Donc la fraude, c'est défini comme étant un acte malhonnête qui est fait dans l'intention de tromper. Mais dans le cas du vol, elle consiste à s'enrichir dans une transaction en dissimulant une partie de la vérité. Et on peut très vite tomber dans ce genre de choses. Par exemple, quelqu'un vend une voiture en hiver et puis il oublie, entre guillemets, de vous dire que la clim ne marche pas. Donc ça, c'est une fraude. Ou quelqu'un a été cambriolé et il fait une déclaration auprès de l'assurance et il va grossir la valeur des biens qui ont été donc cambriolés, mais lui-même en faisant ça, il va voler l'assurance. Et ça, c'est très bien, c'est quelque chose qui est très fréquent. Ou quelqu'un vend une maison et puis il va oublier d'expliquer que la cave est inondable ou que les murs ont des infiltrations d'eau. Donc on va déformer la vérité pour améliorer la transaction en sa faveur. Et la parole, elle condamne très sévèrement ces pratiques frauduleuses, notamment dans le commerce. Elle a l'expression pour ça, ce qu'elle appelle les balances falsifiées. On lit ainsi en Amos, prophète Amos 8, chapitre 8, verset 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Donc on trafique la vérité par rapport au produit qui est vendu pour pouvoir s'enrichir. Et donc, frères et sœurs, les chrétiens devraient être réputés pour leur parfaite honnêteté dans les affaires, ne cachant jamais la vérité, même si c'est à leur détriment. Il y a aussi je dirais, une catégorie de personnes qui finalement est assez facile à voler sans avoir d'ennui, ce sont les pouvoirs publics, au sens large. Et en fait, on applique le principe pas vu, pas pris. Alors, par exemple, on fait sa feuille d'impôt, et puis ben, on modifie un chiffre. Où on omet d'en déclarer un autre afin de diminuer le montant de l'impôt à payer en notre faveur. C'est une pratique commune. Alors quelqu'un dira, ça ne me concerne pas parce que moi je paye pas d'impôt, je suis en dessous des seuils d'imposition. Alors je dirais, bah, vous prenez sans doute les transports en commun. Et est-ce qu'on peut dire de vous que vous n'êtes jamais en situation régulière, que vous avez toujours chargé votre passe Navigo, que vous avez toujours payé votre ticket de métro, même pendant les grèves par exemple? Hein? Donc un chrétien, frère et sœur, doit être parfaitement irréprochable quant au respect de ses obligations envers les services publics. Même quand il n'y a pas de contrôleur, même quand personne ne le saura, surtout quand personne ne le saura. Et puis encore une autre catégorie de personnes qu'on peut facilement voler sans en avoir confiance, c'est notre employeur. Hein? On a un contrat avec notre employeur, on doit travailler par exemple 8 heures par jour, on doit produire un certain travail. Alors il est normal qu'on prenne des pauses, mais je ne pense pas que l'employeur nous paye pour avoir des conversations prolongées à la machine à café. Et puis le risque, il est amplifié en période de confinement, où il n'y a personne pour nous superviser quand on travaille de la maison. Puis aussi le manque de diligence à faire notre travail, on travaille lentement, on n'est pas efficace alors qu'on pourrait l'être plus. Ce sont des formes plus ou moins conscientes de vol de notre employeur, chers frères et sœurs. Et un chrétien doit être irréprochable aux yeux de tous dans l'usage du temps pendant lequel son employeur le paye. Sinon, ça veut dire qu'il vole une partie de son salaire. Et de toute façon, nous devons savoir que nous pouvons dissimuler des choses à notre employeur, on peut dissimuler des choses au transport public, on peut dissimuler des choses à qui on vend à quelqu'un à qui on vend une voiture, mais on ne peut rien dissimuler à Dieu, parce que lui sait tout ce qu'on fait. Et il sait en particulier si nous transgressons lui, le huitième commandement. Et Martin Luther disait que, il avait cette formule, il disait que nous devons mener notre vie, il utilisait une formule latine, coram Deo, qui veut dire devant Dieu. Donc la vie d'un chrétien, elle est menée devant Dieu. Peut-être que son employeur ou quelque chose ne sait pas ce qu'il fait, mais Dieu, il sait tout ce qu'il fait. Et donc on doit mener notre vie comme étant devant Dieu. Et d'ailleurs, on peut aussi se trouver étonnamment en situation de voler Dieu lui-même. Hein? On peut voler Dieu lui-même. Alors, vous demandez sans doute comment un homme peut voler Dieu, ça paraît un peu étonnant. Et bien pourtant, c'est ce que dit le prophète Malachi. Le prophète Malachi, donc, il répond à notre question en chapitre 3, verset 8, et il dit ceci. Un homme vole-t-il Dieu? Donc c'est Dieu qui parle, hein? C'est Dieu qui parle. Un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Et la réponse, dans les dîmes et les offrandes. La malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Je ne vais pas entrer dans un débat sans fin sur le montant de la dîme, mais je me contenterai de dire que dans le Nouveau Testament, quel que soit le montant, il n'y a aucun doute sur le fait que le chrétien doit contribuer financièrement au soutien de l'Église, et d'une façon significative. Ce n'est pas quelques pièces jaunes dans le panier d'offrande. C'est de façon significative. Ceux qui refusent de le faire, eh bien, ils volent Dieu. Et la même chose, on a parlé il y a quelque temps du quatrième commandement, la même chose pourrait être dite à propos du quatrième commandement sur le repos de sabbat. Ne pas payer l'offrande à Dieu, ça revient à lui voler de l'argent qui lui revient. Et ne pas respecter le repos de sabbat, ça revient à lui voler le temps qui lui appartient. Il a mis à part un jour par semaine pour lui, et si on ne respecte pas ce repos de sabbat, on lui vole son temps. Et le temps et l'argent, c'est intéressant parce que le temps et l'argent, ce sont des ressources qui nous sont très précieuses. Donc nous devons méditer sur notre comportement et nos motivations dans ces deux domaines. Comment notre rapport entre l'argent et Dieu, notre rapport entre le temps et Dieu, afin de ne pas le voler. Il y aurait plein d'autres, certainement, formes de vol qu'on pourrait voir, auxquelles nous pourrions être tentés. Mais maintenant, on va regarder les causes du vol. Pourquoi les hommes volent-ils? Qu'est-ce qui les pousse à voler? Évidemment, à la base, c'est leur nature pécheresse. Mais il y a deux péchés au moins qui semblent être à la racine du vol. Le premier, c'est la convoitise. C'est le désir d'avoir toujours plus. Par exemple, vous pouvez regarder dans vos Bibles, Jacques, tournez dans vos Bibles Jacques, au chapitre 4 et au verset 5. Jacques 4, verset 5. Et voici ce que dit Jacques, il dit « Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délits au jour du carnage. » Donc là, il décrit un employeur qui a frustré ses ouvriers donc du salaire, c'est-à-dire qu'il les a volés, il ne leur a pas payé leur salaire ou pas tout ce qu'il devait leur payer. Et puis lui, avec ça, il a vécu dans la volupté et les délices, donc c'est la convoitise. Donc il a volé le salaire des ouvriers pour satisfaire sa convoitise. Mais il y a une autre cause du vol, qui est en fait le manque de confiance dans le Seigneur. Le manque de confiance dans le Seigneur. On a une expression en français qui est intéressante, qui est « tirer le diable par la queue ». Et en fait, donc elle signifie être en difficulté financière. Quand on dit ça, je pense qu'on ne pense pas à particulièrement au diable. Mais en fait, l'idée derrière, dans la sagesse populaire qui a inventé ce proverbe, l'idée c'est que quand on est en difficulté financière, on est tenté de recourir à des pratiques douteuses, mauvaises, qui incluent le vol sous une forme ou une autre, pour pouvoir en fait s'en sortir en quelque sorte. Et donc ça traduit en fait un manque de confiance dans les promesses du Seigneur. Parce que c'est certainement pas le diable qu'il faut tirer par la queue si on a des problèmes d'argent, mais c'est plutôt se tourner vers le Seigneur. Et donc quand je parle de les promesses du Seigneur, il y a une très belle promesse par exemple qu'on trouve en psaume 37, verset 25, psaume 37, verset 25, « J'étais jeune et je suis devenu vieux, mais je n'ai point vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. » Donc il y a des promesses de Dieu sur le fait qu'il nous soutiendra. Donc on a un petit peu regardé les causes du vol. Maintenant, regardons les conséquences du vol. Et en particulier, si vous pouvez prendre dans vos Bibles 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, les versets 9 et 10. Et la parole de Dieu nous dit ceci. 1 Corinthiens 6 au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc Paul, il écrit cette lettre à des chrétiens, comme nous, et pour les mettre en garde. Et en fait, si le vol, sous quelque forme, est une pratique dans votre vie, vous devez rentrer en vous-même, vous repentir et confesser le péché au Seigneur. Et tourner le dos à ce péché, parce que on ne doit pas se tromper, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Comme dit Paul, on ne se moque pas de Dieu. Si c'est une pratique dans notre vie, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. C'est ce que dit la parole. Maintenant, comment éviter le vol? Qu'est-ce que la parole nous engage à faire pour aller contre la propension à voler? J'ai relevé au moins deux remèdes contre le vol dans la parole. Le premier, on a parlé d'ailleurs hier, Albert en a parlé, c'est le travail. C'est le travail. Et en fait, on voit Éphésiens 4, verset 28. Donc si vous pouvez regarder dans vos Bibles, Éphésiens 4, au verset 28. Et la parole dit ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez qu'ici, Paul oppose le travail au vol. Quelque part, le travail est un remède contre le vol. On peut également citer 2 Thessaloniciens 3, verset 12, qui est aussi un verset sur le travail, et qui nous dit ceci, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc une personne, en fait ici une personne qui mange le pain des autres, hein, pour reprendre un peu l'expression de ce verset, alors qu'elle pourrait travailler. Et cette personne, en faisant ça, je dis bien, elle pourrait travailler. Je ne parle pas d'une personne qui est dans la capacité physique ou quelle que soit de travailler. Et en fait, cette personne, elle est en quelque sorte en train de dérober, soit au travers d'aides, dans nos sociétés, il y a beaucoup d'aides, ou de dons généreux, elle est en train de dérober de l'argent gagné par les autres. C'est une forme de vol. Et donc, le travail est quelque chose qui vient en remède contre le vol. Et un deuxième remède, contre le vol, c'est le contentement. C'est le contentement. Hébreux 13, verset 5, nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous, donc le contentement de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc on a vu que deux sources du vol sont la convoitise et le manque de foi. Et donc ce verset, en fait, il traite de ces deux mots. Il nous exhorte à nous contenter de ce que nous avons. Donc ça va contre la convoitise. Et il nous exhorte à mettre notre foi dans le Seigneur. Donc, en ayant pleinement confiance que le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc ce n'est pas la peine de tirer le diable par la queue, il vaut mieux se remettre au Seigneur et à ses promesses. Et les promesses du Seigneur en Jésus-Christ, elles sont oui et amen. Maintenant, nous allons conclure et je voudrais parler d'une chose très importante qui est le pardon du voleur. Le pardon du voleur. Et je voudrais donc terminer avec un mot d'encouragement, en particulier envers ceux parmi nous qui sont pas chrétiens et qui ont été convaincus dans leur cœur de péché par l'exposition de ce commandement. Donc qui ont été convaincus du péché de vol dans leur conscience. Mais aussi pour les chrétiens qui ne sont pas exempts de péché de toute façon. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas. Ah, il y a un petit problème, j'espère que vous me voyez toujours. Ouais. Problème Internet. Je vais continuer. Donc je disais, effectivement, il y aura pas mal de voleurs repentis dans le royaume de Dieu. Il y aura, par exemple, Zachée, le collecteur d'impôts, qui fraudait les gens en leur demandant beaucoup plus que ce qu'il leur devait réellement, mais il s'est converti au Seigneur et il leur a rendu quatre fois ce qu'il leur avait volé, 4 fois plus que ce qu'il avait volé. Mais c'était vraiment un voleur, un collecteur d'impôts qui volait. Il y avait aussi un autre qui était le bon larron, qu'on appelle en français le bon larron, et qui était donc un brigand, et qui est mort à côté de Jésus sur une croix. Et juste avant de mourir, il s'est repenti. Il a mis sa foi en Jésus, et Jésus lui a promis qu'il serait le jour même avec lui dans le paradis. C'est, je pense, la première personne, en tout cas, à qui Jésus a promis cela dans les évangiles. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure des Corinthiens, mais il y aura aussi beaucoup de Corinthiens qui sont des voleurs dans le royaume de Dieu, puisque la citation que j'ai faite tout à l'heure de 1 Corinthiens 6, elle continue comme ça. Il a dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, donc il parle en particulier des voleurs, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc on voit que le Seigneur, il justifie, il sanctifie et il sauve les voleurs qui se repentent. Voilà. J'en ai terminé. Ce que je vous propose, c'est que je voudrais relire une deuxième fois ce cantique. Parce que je pense que ce cantique, il est. Maintenant qu'on a vu un péché, en particulier le péché de vol, et on est tous, comme je disais, quelque peu plus ou moins coupables de ce péché, ben, ce cantique, il parle à des pécheurs et il leur parle justement de ce pardon du Seigneur. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on le relise. Puis il y en a peut-être aussi qui sont arrivés plus tard, qui ne l'ont pas entendu. Donc ce très beau cantique qui s'appelle. Donc, venez pécheurs, pauvres et misérables, donc de Hart, qui était un anglais du XVIIIe siècle. Venez pécheurs, pauvres et misérables, faibles et blessés, malades et souffrants. Jésus se tient prêt à vous sauver, plein de compassion, d'amour et de puissance. Il en est capable, il en est capable, il le veut. Cessez de douter. Que votre conscience ne vous fasse pas attendre. Ne pensez pas que vous n'êtes pas encore prêt. Tout ce à quoi vous devez être prêt, c'est à ressentir le besoin que vous avez de lui. Ce qu'il vous donne, c'est un rayon de lumière radieux de l'esprit. Venez, venez, vous qui êtes fatigué et chargé, couvert de coups et meurtri par la chute. Si vous attendez de devenir meilleur, vous ne viendrez jamais. Ce n'est pas le juste, mais le pécheur que Jésus est venu appeler. Vois-le à l'agonie dans le jardin, ton Créateur, le visage contre terre. Vois-le sur le bois ensanglanté. Entends-le crier avant de mourir. Tout est accompli, tout est accompli. Pécheur, que te faut-il de plus? Vois le Dieu incarné montant aux cieux pour plaider pour toi avec son sang. Mise tout sur lui, gratuitement. Ne mets pas ta confiance en rien d'autre. Ne mets ta confiance en rien d'autre. Il n'y a que Jésus qui puisse faire du bien à des pécheurs sans force. Voilà, prions. Seigneur, cette étude de ta parole nous a rappelé que nous sommes des voleurs, pas nécessairement des bandits de grand chemin, mais certainement des voleurs d'une façon ou d'une autre, comme des différentes façons que nous en vivons. En particulier, Seigneur, nous te voulons même toi. À cause de notre temps, de notre argent, et aussi dans nos relations avec les autres, dans nos pratiques financières, toutes ces choses dont on a parlé. Seigneur, certainement nous sommes coupables de ce péché. Et Seigneur, nous nous confions dans ta parole, qui nous dit que tu nous sauves, et nous nous réjouissons que tu aies sauvé Zachée, que tu aies sauvé le brigand sur la croix, que tu aies sauvé ces voleurs à Corinthe. Et Seigneur, nous te demandons de nous laver de nos péchés à nouveau, et nous voulons nous confier pleinement en toi pour ton salut. Seigneur, travaille dans nos cœurs. Montre-nous, Seigneur, les péchés que nous commettons. Montre-nous en particulier les péchés de vol que nous commettons sans nous en rendre compte, Seigneur. Et donne-nous de lutter contre eux avec fermeté. Donne-nous, Seigneur, d'être irréprochables aux yeux du monde, non pas Seigneur pour nous glorifier, mais pour te glorifier. Seigneur, puissions-nous montrer ta gloire par notre comportement, encore une fois, pas notre gloire, mais la tienne. La puissance du travail de ton esprit dans nos cœurs. et que toi seul sois glorifié, et que ton nom soit glorifié. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous.